Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 28e dimanche. En réponse, Jésus leur parle à nouveau en parabole et dit :
Le règne des cieux est semblable à un homme qui est roi et qui fait des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités aux noces, mais ils ne veulent pas venir. Il envoie à nouveau d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été sacrifiés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux restent indifférents et s'éloignent, l'un vers son propre champ, l'autre vers son commerce. Ceux qui restent saisissent ses serviteurs pour les injurier et les tuer. Le roi est irrité, il envoie ses troupes pour faire périr ses meurtriers et incendier leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : D'une part, la noce est prête, d'autre part, ceux qui ont été invités ne sont pas dignes. Rendez-vous sur les routes aux sorties de la ville et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs vont sur les routes aux sorties de la ville et rassemblent tous ceux qu'ils trouvent, mauvais comme bons. Et la noce est pleine de convives. Le roi entre voir les convives, il aperçoit là quelqu'un qui n'a pas revêtu un vêtement de noce. Il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici sans vêtement de noce ? Celui-ci est comme muselé. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui pieds et mains pour le rejeter dans la ténèbre du dehors. Là seront pleurs et grincements de dents. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien voilà une finale, là seront pleurs et grincements de dents, qui risque de faire de cette parabole un message de peur. Et ce serait vraiment très dommage de nous arrêter à cette impression et de ne pas voir que nous sommes invités à aller aux noces. Et une invitation qui, elle, n'a rien d'épeurant.
Oh, j'espère bien. Georges, situons déjà cette parabole dans le récit de Matthieu. Sa place peut-elle nous aider à comprendre?
Alors, nous sommes dans les dernières semaines de la mission de Jésus. Jésus est entré à Jérusalem, acclamé par la foule des gens très simples, et aussitôt après, il chasse les marchands du parvis du temple, et les prêtres, bien sûr, vont lui demander par quelle autorité il agit ainsi. Mais la question est peut-être plus ample. Ce à quoi Jésus doit répondre, ce sur quoi on l'interroge, c'est pourquoi l'élite religieuse le rejette et que ce sont les gens simples qui l'accueillent. Et c'est à cela que Jésus s'efforce de répondre avec une suite de trois comparaisons, de trois paraboles, où d'abord il montre que ceux qui vont répondre à l'invitation de Dieu, ceux qui veulent bien vivre de son amour, ne sont peut-être pas ceux auxquels on s'attend qu'il donne une réponse. Alors nous avons deux paraboles qui ont été vues dans les semaines précédentes, la parabole des deux fils qui sont invités à aller travailler à la vigne, celle des vignerons qui tuent les messagers du propriétaire de cette vigne et qui finalement vont tuer son propre fils, et enfin notre parabole de l'invitation au banquet des noces du fils du roi. Jésus a pris ce dernier exemple dans les coutumes d'alors. Les noces, en effet, se célébraient principalement dans un banquet où beaucoup de monde était invité, les parents, bien sûr, les amis, les notables, mais aussi les voisins, proches ou lointains. Et on peut encore dire qu'il y a ici sans doute deux paraboles qui ont été réunies par Matthieu. La première traite du refus des premiers invités et de l'invitation qui est alors faite à tous, et la seconde est celle de l'invité qui n'a pas de vêtements de noces.
Le règne des cieux est semblable à un homme qui est roi et qui fait des noces pour son fils.
Oui, il s'agit donc d'une invitation à des noces. Oublions donc un instant les images de la réaction colérique du roi au refus des invités, et cela pour nous laisser nous-mêmes inviter à la fête.
Cette image des noces, eh bien, elle est fréquente dans la Bible. Évoquons quelques textes. D'abord celui de Jérémie au chapitre 2.
« Va clamer aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je te rappelle ton attachement, du temps de ta jeunesse, ton amour de jeune marié. Tu me suivais au désert, dans une terre inculte. »
Les liens entre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et Dieu, ces liens sont comparés à des amours humaines. Et est-ce qu'elles ont de plus passionné le temps des fiançailles? Le Dieu qui a fait sortir Israël de l'esclavage l'a fait par amour. Et Israël doit se souvenir de ce temps du désert comme de celui de ses fiançailles avec Dieu. On retrouve un peu les mêmes images au chapitre 54 d'Isaïe.
Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car telle une femme abandonnée et dont l'esprit est accablé, le Seigneur Dieu t'a rappelé. La femme des jeunes années, vraiment serait-elle rejetée? A dit ton Dieu. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Ton Créateur est ton époux. Ému d'une immense miséricorde, je vais t'unir à moi.
Et le prophète n'hésite pas à utiliser toutes les images conjugales, même les plus concrètes, pour décrire les sentiments de Dieu. Écoutons quelques versets du chapitre 62 d'Isaïe.
On t'appellera celle en qui je prends plaisir, et ta terre l'épouser. Car Dieu trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton bâtisseur t'épousera. De l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi.
Et enfin, citons ce beau cantique d'amour que la Bible appelle le cantique des cantiques et qui décrit si bien les liens entre l'être humain et son Dieu.
Je dormais, mais je m'éveille. J'entends mon amant qui frappe.
Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit.
Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet.
Pour décrire les liens de communion que Dieu veut tisser avec les humains, la Bible utilise aussi l'image du repas. Un repas aux chandelles n'est-il pas souvent le premier acte des amours nuptiales?
Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif.
Le livre des Proverbes se rapproche de notre parabole lorsqu'il parle du banquet auquel la sagesse qui est Dieu lui-même, auquel la sagesse nous convie.
La sagesse a abattu ses bêtes et mêlé son vin, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous.
Oui, les paroles de la sagesse qui sont les paroles mêmes de Dieu sont des mots d'amour.
Mon fils, garde mes paroles, que mes préceptes soient pour toi un trésor. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, mon épouse.
Voilà, cette intuition qui parcourt la Bible, Dieu, le tout-puissant créateur des espaces et des espaces infinis d'un univers dont la science nous dit qu'il aurait plus de 15 milliards d'années. Eh bien, ce Dieu offre à chaque être humain un amour fort, plein de tendresse et de bonté. Un amour si fort que certains le diront jaloux. La Bible compare cet amour à l'amour d'un père, d'une mère, d'un frère, d'un époux. Et cette image n'est pas uniquement sentimentale, car ce Dieu ne cesse de nous inviter à nous unir à lui pour agir avec lui, pour agir comme lui.
C'est moi le Seigneur qui t'ai appelé. Je t'ai destiné à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier.
Voilà, il s'agit donc d'agir avec Dieu pour libérer ceux qui sont enchaînés. Et l'invitation n'est pas générale, anonyme. Elle est personnelle, à chacun, à chacune.
Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux, tu as du poids, et moi je t'aime.
Voilà, toutes ces paroles sont tirées des chapitres 42 et 43 d'Isaïe. Eh bien, c'est le fond de décor sur lequel il nous faut lire la parabole. Il ne s'agit pas d'une invitation formelle à des noces mondaines. C'est avec, au contraire, le langage de l'amour que Dieu nous invite à partager sa communion.
Et quelle a été la réponse de l'être humain à cette invitation de Dieu ?
Et malheureusement, même si Dieu se veut l'amant, l'ami de chaque être humain, eh bien chacun et chacune est responsable de sa réponse à cet amour. Nous savons d'expérience que toute histoire d'amour entre les humains ou entre Dieu et les humains, toute histoire d'amour est faite de moments qui sont des moments de communion, mais aussi des moments d'incompréhension. Et cela est vrai des relations des parents avec leurs enfants, des époux l'un envers l'autre, des amis. Ces moments de joie et ces temps de souffrance trament la vie. Et elles la trament comme un drame, une passion, aux deux sens de ce mot. L'amour passion, mais aussi l'amour souffrance, une passion de souffrance. Dans ces amours, les indifférences ou les refus qui affaiblissent ou qui brisent les liens, eh bien, ils sont semblables à ceux de la parabole. Le cœur est pris par le travail qui devient une idole, ou par l'argent, ou par la réussite personnelle. On se laisse prendre par toutes sortes d'intérêts immédiats, et on s'aperçoit soudain que les liens humains se sont peu à peu défaits. Or, ce sont ces liens humains qui vraiment font vivre l'être humain. Parfois, le désintérêt va faire place au refus d'aimer, un refus plus ou moins fort, plus ou moins confiant. Et refuser l'amour, c'est le tuer, lui porter un coup mortel. Et ce qui est vrai des amours humaines l'est aussi de notre relation d'amour avec Dieu. Le meurtre des messagers dans la parabole est sans doute le symbole de nos ruptures de communion avec Dieu, Dieu qui est la source de l'amour. Il doit être compris, sans doute, comme la conséquence de notre propre agir et non pas comme le châtiment qui serait la punition venant de Dieu. Ces images de colère, on le redit encore, ne doivent pas cacher à nos yeux la passion ardente de Dieu, qui ne cesse de nous inviter, de refaire ses invitations, même s'il doit paraître insistant, voire importun. Certains pourront d'ailleurs traiter de faible et de bonasse ce Dieu Père, qui ne cesse pas d'aimer ceux qui le rejettent. « J'ai tout apprêté, tout est prêt, la fête est prête, venez !» Nous retrouvons ici le père de l'enfant prodigue, attendant sans répit le retour de son enfant. À l'épouse infidèle que nous sommes, Dieu ne se lasse pas de reproposer son amour, comme dit le prophète Osée au chapitre 2e.
« C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Et là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux, et tu ne me diras plus mon maître. Je te fiancerai à moi par la droiture et le droit, par l'amour et la tendresse. »
Dans nos vies, constamment, Dieu fait signe. Mais il se peut que nous ne percions pas ces signes discrets, car notre cœur n'est pas ouvert ou disponible à les accueillir. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas, des oreilles, mais nous n'entendons pas. On ne voit les signes de Dieu que si notre cœur vit sur le registre de l'amour. Il faudra parfois des moments de plus grande épreuve et de souffrance pour que nos yeux et nos oreilles s'ouvrent. Ce seront alors comme des temps de désert, et notre cœur sera prêt à redécouvrir l'amour et la tendresse de Dieu.
Rendez-vous sur les routes aux sorties de la ville et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Cet amour de Dieu, comme tout amour véritable d'ailleurs, ne se laissera jamais conditionner par nos mérites. Il est grâce, gratuité. Et si infidèles que nous soyons, Dieu ne cesse pas de nous aimer, de nous espérer. Il nous invite comme nous sommes, bons et mauvais. Et il nous cherche où nous sommes, dans notre demeure ou aux portes de la ville sur les chemins. La multitude est appelée, c'est-à-dire tous, moins nombreux peut-être, sont ceux qui répondent à l'appel. Et même ceux-là qui répondent oui ne peuvent considérer la fidélité de Dieu envers eux comme la récompense due à leurs bonnes actions. Car nous sommes constamment tentés de vouloir mériter l'amour des autres et l'amour de Dieu, alors que l'amour véritable ne peut être que grâce et gratuité. Paul le dira souvent, écoutons ce qu'il dit aux chrétiens de Rome dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains.
Dans le temps présent, il y a un reste d'élus selon le libre choix de la grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est donc pas en raison des œuvres.
S'il n'y avait que nos mérites pour refaire sans cesse nos liens d'amour, est-ce que la parabole nous parlerait des messagers que Dieu envoie sans relâche? La déception du roi n'a d'égal que sa passion de communion et cette offre incroyable qu'il nous a faite de partager les noces de son fils. Ce fils du roi est Jésus, ce fils bien-aimé et le premier des êtres humains à vivre la totale fidélité de la communion avec le Père qui est Dieu. Le cantique des cantiques et les prophètes chantaient les noces de Dieu roi et de son peuple Israël. Eh bien, la parabole invite maintenant aux noces du Fils du Dieu roi avec le peuple des humbles qui deviendront ses disciples. L'apôtre Paul, plus tard, reprendra cette même image pour décrire les liens des chrétiens avec Jésus.
Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ.
Je vous ai fiancé à un époux unique. Voilà ce qu'il faut que nous entendions, chacune, chacun de nous. Et pour parler aux Éphésiens du mariage, Paul comparera l'amour conjugal à l'union au Christ.
Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Ne sommes-nous pas les membres de son corps tirés de sa chair et de ses os? L'homme s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je l'entends de Christ et de l'Église.
Ces images ne doivent pas rester pour nous des symboles extérieurs à notre vie. Le Christ époux n'est pas seulement une pieuse comparaison qui serait réservée aux personnes consacrées et encore celles du sexe féminin. La réalité de communion qu'évoque l'image nuptiale doit devenir la réalité la plus profonde, la plus vraie, la plus réelle de notre communion à Jésus. Jésus nous appelle sans cesse à une intimité forte, une amitié exigeante. Et cela, malgré nos faiblesses et nos trahisons, car cette amitié sera sans cesse nourrie de l'indéfectible fidélité de Jésus, même si nous le renions, comme disait l'apôtre Paul, lui ne peut se renier et il reste fidèle.
Ami, comment es-tu entré sans avoir un vêtement de noces?
Matthieu a, semble-t-il, rattaché ici une autre parabole que Jésus a peut-être dit dans un contexte différent. Il reprend d'ailleurs encore ici les mœurs de son temps. La coutume orientale d'alors voulait que l'hôte ne mange pas avec ses invités, mais que, au long du repas, il passe saluer chacune et chacun. Et d'autre part, les souverains orientaux offraient à leurs invités un habit de cour, que ceux-ci portaient pendant les banquets.
Comment les commentateurs tentent-ils d'expliquer le rattachement de cette seconde parabole?
Eh bien, donnons d'abord une explication qui est bien souvent acceptée. La parabole précédente a montré que tous sont invités, les bons, mais aussi les mauvais. Mais encore, et c'est là l'idée de cette seconde parabole, faut-il qu'une fois l'invitation acceptée, chacun s'efforce de vivre et d'agir en conformité avec l'amour qu'il a reçu de Dieu. Les commentateurs suggèrent que, dans les premières communautés chrétiennes, on aurait été rapidement peut-être confronté à des gens qui acceptaient de faire partie de la communauté, mais sans vouloir changer leur conduite, c'est-à-dire en continuant à vivre à la païenne. Alors le vêtement serait donc le symbole d'une conversion qu'il nous faut vivre concrètement selon l'Évangile. Pour cette explication, on invoque des textes de la Genèse et de l'Exode.
Va trouver le peuple, fais-le se sanctifier, qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts. Le Seigneur se tiendra sur la montagne aux yeux de tout le peuple. purifiez-vous et changez vos vêtements.
Et on invoque aussi des textes de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens.
Vous, vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu l'humain nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus question de grec ou de juif, d'esclave ou d'homme libre. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous.
Mais cette explication, me semble-t-il, présente le risque de réintroduire dans nos liens avec le Seigneur des conditions basées justement sur nos bonnes actions. Et ça ne semble pas l'idée de Paul qui poursuit son argument.
Christ est tout et en tous, puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu.
Oui, pour Paul, c'est Dieu qui est notre propre sainteté. Il l'est par l'amour qu'il nous porte, et c'est cet amour qui, en connaissance, en conséquence, nous transforme à son image. Il est d'ailleurs une autre parabole où Jésus parle d'un vêtement dont le Père revêt son Fils. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Et dans ce cas, il est bien clair qu'il n'est pas question des mérites et de la bonne conduite de ce Fils qui revient après avoir mené une vie épouvantable. Chez les prophètes, ce vêtement de grâce donné par Dieu est encore associé à l'image des épousailles.
Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, comme un jeune époux qui porte un diadème, comme une jeune épouse se pare de ses bijoux.
Oui, c'est au chapitre 61 d'Isaïe. Ainsi, l'image de l'invité sans vêtement ne serait pas d'abord l'image de celui qui demeure un pécheur, qui est indigne de participer aux noces parce qu'il refuse de convertir sa vie. Mais ce vêtement serait plutôt le symbole de celui qui reçoit ou qui refuse la grâce généreuse de Dieu, de ce Seigneur et Père qui l'aime gratuitement et qui veut lui redonner un cœur nouveau. L'invité sans vêtement, ce n'est pas le fils prodigue, c'est le fils aîné. Comme lui, il est trop fier de sa bonne conduite et il s'appuie sur elle pour revendiquer les bienfaits du Père. Eh bien, cette attitude n'est pas celle de l'amour véritable qui ne s'appuie sur rien d'autre que sur la bonté généreuse de Dieu. Pour vivre de cet amour, pour revêtir le vêtement, il faut s'abandonner à la bonté du Père et toujours se réjouir de son pardon d'amour. Le fils aîné, comme l'invité sans vêtement, se prive de la vraie joie car il pense se suffire à lui-même, alors que la joie naît de se laisser aimer. Il faut pour cela se retrouver soi-même comme un mendiant d'amour. Refuser le vêtement de noces, c'est se détourner de la vie sans cesse trouvée et retrouvée dans l'amour du Père. C'est s'éloigner alors de la joie de Dieu, heureux car son Fils que voilà est vivant, une joie qu'il veut nous partager, dont il veut qu'elle devienne la nôtre. Paul redira sans cesse à ses frères et sœurs chrétiens cette vérité dont il faut que nous reprenions chaque matin conscience. La vraie droiture de notre cœur ne vient pas d'abord de notre fidélité à vivre selon la loi de Dieu. Notre droiture, nous dit Paul, c'est de vivre d'amour, de nous laisser aimer par l'amour divin, et cela à travers notre lien avec Jésus, le Fils premier-né du Père.
Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Vous avez revêtu Christ Jésus. Il nous faut être les frères et les sœurs de Christ Jésus. Il nous faut vivre de lui, par lui, avec lui. Et revêtir Christ et revêtir l'amour, c'est tout un. Paul le disait en d'autres mots aux chrétiens de Colosse.
Puisque vous êtes aimés de Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait.
Jésus disait ces paraboles aux grands prêtres et aux pharisiens. Il se sait rejeté par eux, qui sont les premiers appelés, les premiers invités par Dieu. Or, ce sont davantage les petits, les pécheurs, les marginaux, qui répondent à la prédication de Jésus. La parabole veut donc expliquer à ces juifs, grands prêtres et pharisiens qui se croient justes et s'appuient sur leur bonne conduite, qu'ils sont en train de passer à côté de la table de Dieu, parce qu'ils passent à côté de l'amour. Ces gens pieux, ces théologiens, ces chefs religieux, qui tirent orgueil de leur fidélité, passent à cause à côté de la gratuité de l'amour. Une gratuité qui sera au contraire plus facilement accueillie par ceux qui se pensent des pas bons et qui ne peuvent même pas imaginer que Dieu leur doive quoi que ce soit. Alors à qui pensait Jésus ? Pensait-il aux païens, aux gens des autres peuples ? Ce n'est pas impossible. Devant la confiance et la disponibilité à la gratuité de Dieu, certains païens sont plus proches que les pharisiens et les grands prêtres. Jésus dira :
Beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin de la table de Dieu, alors que les héritiers seront jetés dans les ténèbres du dehors.
L'image des ténèbres où se trouvent pleurs et grincements de dents était classique, et Jésus la reprend dans notre parabole, mais c'est sans doute pour dire que celui qui se met en dehors de la gratuité de l'amour, celui-là se prive de la communion et donc de la joie. Les premiers chrétiens, après le siège de Jérusalem par les Romains en l'an 70, ont peut-être accentué la réaction du roi. Il envoya ses troupes, fit périr ses assassins, incendia leur ville. Ces phrases semblent décrire ce siège où Jérusalem a été prise, incendiée et ses habitants massacrés. Mais, répétons-le, cette finale de la parabole ne doit pas venir cacher le vrai message. Il se trouve dans l'histoire des relations entre Dieu et l'humanité, une histoire qui en est une d'amour. Dieu fait à l'humanité, et donc à chaque être humain, l'offre extraordinaire de sa communion, pour qu'il apprenne à aimer comme lui et puise sa joie dans cette pratique de la bonté généreuse. Et cette offre n'est plus seulement valable pour les Juifs, elle n'est même plus seulement valable pour les chrétiens, elle l'est pour tous les croyants de toutes les religions et aussi pour les incroyants. Elle ne se limite pas aux gens au cœur bon et droit, elle l'est aussi pour les assassins, les pédophiles, les racistes, les prostituées. Tous ceux-là sont invités à se laisser aimer gratuitement. Sans cela, ils ne connaîtront pas la joie d'aimer à leur tour. Pour le disciple de Jésus, il s'agit de se laisser revêtir de Christ, le Fils aîné du Père. Y aura-t-il de vraies communautés chrétiennes pour faire l'expérience de cet amour, de cette bonté ?
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750, s'il vous plaît, n'appelez pas après 22 heures. Utilisez aussi, si vous le voulez, notre télécopieur. Le numéro est 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous ces renseignements. Et vous pouvez aussi vous abonner à la semaine, au mois, à l'année. Les tarifs sont très bas. Téléphonez-nous.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.